Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a désormais sa première banque, Sounou Bank Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Bank vous accompagne. Sounou Bank, avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous et merci. Merci à celles et ceux qui chaque jour se mettent au service de la communauté, soignants, infirmières, médecins, paramédicaux, employés des commerces, des services de nettoyage, des transports publics. Merci qui résonne tous les soirs à 20h aux fenêtres des villes d'une France en confinement. Merci que nous leur adressons dans Priorité Santé Coup pour commencer chacune de nos émissions. Et il y a quelques jours, lorsque nous avions programmé ce sujet, les soignants face au coronavirus, nous avions en tête de parler de la mobilisation, du travail en contexte de crise, des moyens, de l'exposition, du dévouement aussi, également de ce défi de soigner une nouvelle maladie, un virus émergent dans un contexte de grande angoisse, également dans un contexte de crise pour l'hôpital public en France. De tout cela, nous allons bien évidemment parler, mais depuis, au nombre des cas de Covid-19 testés, aux près de 1100 morts recensés dans les hôpitaux français depuis le début de l'épidémie, est venu s'ajouter le nom des 5 soignants décédés, contaminés dans le cadre de leur exercice. Alors merci, merci encore, même si aucun remerciement, aucun applaudissement ne peut traduire la gratitude et le respect que nous éprouvons envers celles et ceux qui prennent de tels risques pour prendre soin des autres. Soignants mobilisés contre le coronavirus, dans Priorité Santé aujourd'hui, nous partons pour la région Grand Est, particulièrement touchée par la pandémie. Des hôpitaux sur place en extrême tension. En ligne avec nous d'Alsace, docteur Éric Thibault, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chef de service des urgences et SMUR des hôpitaux civils de Colmar. Et toujours dans ce département du Haut-Rhin, on vous retrouve. France, bonjour. France avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière à l'hôpital de Mulhouse. La médecine libérale mobilisée également. Nous retrouverons tout à l'heure le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. Autre région en tension sanitaire, l'Île-de-France. Nous serons en ligne avec le professeur Olivier Bouchot, responsable du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de Bobigny en Seine-Saint-Denis, l'hôpital Avicenne. Et puis soigné en période de pandémie, situation inédite plus que jamais, le corps médical face aux questions éthiques, à la déontologie. Nous retrouverons le professeur Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale.
Priorité santé sur RFI.
Le pic de l'épidémie n'aurait pas encore été atteint en France. Dans certaines régions du pays, l'évolution en termes de cas comme de décès est particulièrement importante. Et aujourd'hui, un train rapide, un TGV médicalisé est mobilisé pour évacuer une trentaine de patients d'Alsace, des territoires, des hôpitaux, on peut le dire, submergés. Alors, est-ce que c'est le cas chez vous, docteur Éric Thibault? Pour commencer, peut-être un état des lieux sur les prises en charge. Est-ce que vous avez l'impression, docteur, que la vague, la marée, est un petit peu en train de redescendre ou ce n'est pas encore le cas?
Alors non, ce n'est malheureusement pas encore le cas. À l'heure actuelle, on accueille une dizaine à peu près de malades qui nécessitent des soins de réanimation chaque jour. On a un flux global de patients qui est quand même franchement diminué. Hein. Les mesures de confinement ont fait leur effet. On n'a plus d'accidentologie routière ou de traumatologie du sport. Mais par contre, les malades atteints de coronavirus ou suspects de coronavirus sont quand même encore très très nombreux. Une quarantaine de malades chaque jour, dont quasiment un quart est grave et nécessite des soins de réanimation.
Parce que les gens, quand on leur a dit de rester chez eux pour le confinement, ils ont bien sûr pensé au Covid-19, mais bien évidemment, ça évite l'exposition à d'autres risques du quotidien, les accidents de la route, se faire mal aussi en allant se promener, en allant courir. Pour ce qui est de la réanimation, aujourd'hui, est-ce que tous vos lits sont occupés à Colmar?
Ah oui, alors très largement, on a sur les derniers jours envoyé des malades en Allemagne, en Suisse, dans les départements et régions voisines. Habituellement, notre capacité sur Colmar même, c'est 30 lits de réanimation. À l'heure actuelle, elle a été montée à 50. Sur le département, on est monté à quelque chose comme 130 lits, alors que c'est quasiment le double de notre capacité habituelle, et ça ne suffit largement pas. Un séjour en réanimation en situation de coronavirus, c'est 2 à 3 semaines. Et si nous, on en a plus d'une dizaine, et que la Mulhouse est également une grosse dizaine, on a à peu près 25 malades par jour sur le département. Vous imaginez bien que 150 lits qui sont occupés par des malades, par 15 malades par jour, qui a 2 semaines, ça ne suffit largement pas.
Mais ce n'est pas comme, on va dire, pour certains cas plus fréquents en réanimation, où au bout de 2-3 jours, eh bien, les personnes quittent ces soins intensifs pour aller vers la convalescence, on va dire.
C'est exactement ça, oui. Les séjours en réanimation sont parfois beaucoup plus longs, hein, sur certaines maladies qui mettent beaucoup plus de temps, mais souvent beaucoup plus courts. Le temps de passer un cap aigu.
En post-opératoire, par exemple.
En post-opératoire, ou après un œdème du poumon d'origine cardiaque, ou des choses comme ça, ou des comas, où on a une évolution qui est plus rapide. Là, les lésions pulmonaires sont tellement sévères qu'il faut du temps pour cicatriser. Et bon, après, il y a malheureusement aussi des complications qui surviennent, comme on peut malheureusement l'imaginer.
Alors, à une 40aine de kilomètres de chez vous, vous restez avec nous, hein, docteur Eric Thibault, Mulhouse. Alors, vous exercez dans l'hôpital de Mulhouse comme infirmière, France. On va bien sûr parler de votre travail. Si vous le voulez bien, pour commencer peut-être, votre état d'esprit, comment est-ce que vous le décrivez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ressentez face à la situation?
En réalité, dans un premier temps, il y avait c'était un certain agacement en réalité, puisque nous attendions ce confinement depuis bien longtemps. Peut-être une préparation en amont, on a été pris au dépourvu dans nos services. Là, actuellement, l'état est à l'épuisement.
L'épuisement. Décrivez-nous la situation, justement, à Mulhouse. Ces dernières heures, les regards des médias classiques sont braqués sur Mulhouse parce que le président de la République, Emmanuel Macron, se rend dans la journée, justement, pour aller vers cet hôpital de campagne qui a été installé par l'armée, un signe de la saturation complète du site où vous travaillez, l'hôpital de campagne qui a commencé à entrer en fonction depuis hier. Quel regard vous portez sur cela ?
Ça pourra désengorger nos services de réanimation. Mais bon, vous savez bien que 30 lits vont être remplis aussi rapidement qu'ils ont été installés. Hein. On a des transferts tous les jours vers la Suisse, l'Allemagne. Il y a eu des transferts en Bretagne, vers Reims. Donc nos services de réanimation sont engorgés constamment.
On disait Emmanuel Macron à Mulhouse, si vous l'aviez en face de vous, on sait qu'il va bien sûr, pour des raisons de confinement, de sécurité sanitaire, ne pas rencontrer les soignants de l'hôpital, ne pas rentrer dans cet hôpital. Mais si vous l'aviez en face de vous, Emmanuel Macron, France, qu'est-ce que vous lui diriez, vous, infirmière épuisée à Mulhouse ?
Je lui dirais, avant nous étions oubliés, aujourd'hui on nous considère comme des super-héros, et demain, qu'est-ce qu'on fera de nous ? Voilà ce que j'ai envie de lui dire.
Pensez à nous aussi demain, hein, quand il faudra continuer à travailler avec vos salaires d'infirmière. Ça fait des années que c'est sur la table. Ça fait des années qu'on ne vous explique, qu'on ne vous écoute pas. C'est pas simplement une question d'argent. C'est aussi une question de respect par rapport aux services que vous rendez à la population. Est-ce que ce sentiment aujourd'hui, l'épuisement, il est partagé par vos collègues?
Ah oui, mais complètement. Hein. Complètement. On était en situation de crise bien avant ce coronavirus. On était en très grosse difficulté. Nous manquions de lits. Les situations étaient ingérables. Nos locaux ne sont pas adaptés. En termes de matériel, nous avions des besoins. En termes de personnel également. Donc nous étions déjà en grosse difficulté avant. Et à cela s'ajoute cette crise sanitaire. Donc oui, l'épuisement est partagé par tous mes collègues.
On connaît le caractère très contagieux du Covid-19, France. Comment est-ce que vous vous protégez du risque de transmission, vous qui êtes extrêmement exposée en tant qu'infirmière?
Alors, au quotidien, nous portons donc une surblouse. Je n'ai pas de dessin pour vous la décrire, mais elle se déchire très facilement. Nous portons des gants, une charlotte, un masque, évidemment, des lunettes, des surchaussures.
Tout ce matériel est à disposition?
Alors, on a ce matériel à disposition. Bon, les masques FFP2 ont été très tardivement donnés. Ils étaient réservés uniquement pour les soins invasifs tels que l'intubation. La solution hydroalcoolique, pareil, c'était en tension. Hein. Il faut qu'il m'en dé au quotidien pour avoir du matériel.
On retrouve le docteur Éric Thibault à Colmar. Tout à l'heure, vous nous parliez des poumons lésés quand on est en réanimation, d'où le long séjour dans le service pour bien en sortir en meilleure forme. Justement, du côté des symptômes des patients qui sont en réa chez vous aujourd'hui, quels symptômes présentaient-ils pour justifier le recours à cette médecine très lourde ?
C'est l'incapacité complète à respirer, en fait. Le poumon ne remplit plus son rôle, donc les gens s'asphyxient. Avant ça, les symptômes sont plutôt variés. Enfin, le symptôme au premier plan reste la toux avec en général de la fièvre. Maintenant, on sait qu'il y a certaines personnes qui ont plutôt des troubles un peu digestifs au début, des épisodes de diarrhée. Ce qui a été décrit d'un petit peu atypique, c'est une perte du goût ou de l'odorat, ou une modification du goût ou de l'odorat. Maintenant, le tableau reste avant tout respiratoire et les gens qui... Il n'y a pas de facteur prédictif précis de qui va aller en réanimation à un moment de l'évolution de sa maladie et qui ne va pas y aller.
Précisément, par rapport au profil des personnes qui sont en ce moment chez vous, ce sont quoi ? Essentiellement des personnes âgées ou on ne peut pas comme ça définir telle ou telle population ?
Non, on ne peut pas définir. Les malades qui finissent en réanimation ont entre 30 et 70, 80 ans. Il n'y a pas de profil type, il y a des facteurs de risque qu'on a identifiés, les problèmes de surpoids, les problèmes d'apnée du sommeil appareillée, les problèmes respiratoires chroniques, ce sont des choses qui sont a priori facilitantes, mais on n'a pas encore suffisamment de recul pour pouvoir affirmer qu'est-ce qui est réellement un facteur de risque, c'est plus une tendance, une impression qu'on a.
France, même chose chez vous à Mulhouse, oui. Du côté du profil des personnes qui sont en soins intensifs et en réanimation, est-ce que vous avez justement un retour par rapport à cela ou c'est plutôt une population assez mélangée ?
C'est une population assez mélangée, hein. Je partage l'avis du docteur. On a des patients qui ont entre 30 et 80 ans. Certains ont d'autres pathologies en antécédent, comme l'hypertension, des diabètes, l'apnée du sommeil, d'autres pathologies respiratoires. Mais pour certains, il n'y a pas de grosses pathologies prévalentes.
On parle beaucoup de la solidarité. Hein. En début d'émission, tout à l'heure, il y avait ces applaudissements, comme on les entend à 20h à Paris. Dans les médias, on entend aussi énormément relayer, même dans la bouche des politiques, c'est merci. Des artistes aussi poussent la chansonnette pour vous dire merci. Est-ce que c'est important, docteur Éric Thibault ? Mais il y a au-delà de ça, hein, des gestes concrets, des gens qui vous apportent à manger, des actions qui sont faites concrètement pour vous aider. Quel ressenti vous avez par rapport à ça, docteur ?
Alors évidemment, ça fait chaud au cœur et c'est essentiel pour le moral des équipes d'avoir ce soutien. Maintenant, j'ai malheureusement des échos ou des expériences personnelles un peu plus négatives où le problème, c'est que nous faisons peur aussi. Mm-hmm. Parce que nous sommes vus comme potentiellement contaminants. Mm-hmm. Nos enfants sont également vus comme potentiellement contaminants. Moi, j'ai éprouvé des difficultés pour faire garder mes enfants. Heureusement, il y a des gens qui sont prêts à prendre des risques pour nous. Les gens qui sont prêts à vraiment faire des efforts pour nous, et autant les chansons, les applaudissements au balcon, c'est vrai que c'est important pour le moral, mais ce qui compte encore plus, ce sont les gens qui vont faire le petit quelque chose en plus pour les soignants. Ça va être de la livraison de nourriture, ça va être l'envoi de cadeaux, ou du matériel qui a été retrouvé dans les placards, chez des professionnels qui vont nous fournir, ou, comme je disais, simplement accepter d'accueillir nos enfants, quel que soit le risque, hein, parce que je pense que le risque, il est avant tout pour nous, mmh. Et que si on n'est pas dans de bonnes conditions pour travailler, on ne pourra pas travailler.
Gestes de proximité solidaire qui sont absolument essentiels. France, vous, votre point de vue, ça vous fait chaud au cœur ou vous vous dites finalement, on se réveille un petit peu tard pour nous dire merci ?
Alors, mon sentiment est partagé également. Ces dons, cet esprit de solidarité nous fait chaud au cœur et effectivement on en a besoin dans cette période difficile. Ça nous remonte le moral, ça nous ressolide entre collègues. On en a besoin, j'en pleure tous les soirs lorsque j'entends les voisins applaudir, ça me fait vraiment du bien. Par contre, effectivement, peut-être que cette solidarité aurait été un peu plus en amont. Nous, notre travail, il est quotidien. Mmh. Là, j'ai l'impression que cette crise est là et qu'on remarque notre travail maintenant. C'est bien dommage.
Docteur Éric Thibault, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à nos auditeurs ? Certains sont en train de vous écouter à l'autre bout du monde. Ils ne sont pas justement aujourd'hui en situation épidémique. Vous, dans l'Est, le Grand Est de la France, vous êtes au cœur de la crise. Un message pour une prise de conscience peut-être ? On a beaucoup, beaucoup de monde qui nous écoute en Afrique. Qu'est-ce que vous voulez leur dire ?
Nous, ce qu'on vit aujourd'hui, c'était juste inimaginable. On est dans une situation qui est complètement surréaliste. Les pires films catastrophiques n'ont pas prévu ce qui nous arrive. Et je pense qu'il faut impérativement que les emplacements qui n'ont pas été touchés se préparent. La priorité, c'est d'être prêt à faire face, de mettre en place des moyens. Alors, je sais que nous avons quand même la chance, particulièrement dans le Grand Est, d'avoir des plateaux techniques assez complets, et c'est pas le cas partout en France, et c'est encore moins le cas partout
bien
sur
évidemment.
Terre. Mais en effet, il n'y a que la préparation et la prise de conscience que ce qu'on est en train de traverser, c'est bien, bien, bien plus qu'une grippe, comme certains ont pu le dire au début. On est quand même sur une situation qui est dramatique.
Et le confinement, pour vous, c'est essentiel ?
Le confinement, c'est essentiel tant qu'on n'a pas mieux, en effet. Dès lors qu'on est dans le flux de virus, il faut le respecter. Et c'est, je pense, là encore le meilleur moyen de montrer le soutien aux soignants, c'est de respecter les choses qui ont été mises en place.
Merci beaucoup, docteur Éric Thibault, un chef de service des urgences et SMUR des hôpitaux civils de Colmar. Bon courage et merci à toutes vos équipes là-bas. France, cette situation de confinement, il y a un autre aspect quand on est infirmière, donc dans le soin, dans le lien, c'est la solitude des malades, y compris en extrême détresse, y compris en fin de vie.
Oui, tout à fait. Les patients arrivant aux urgences arrivent avec des pompiers, des ambulanciers. Ils n'ont pas leur famille, leur repère. Ils sont livrés à nous, nous les soignants, qui sommes déguisés, qui ne nous reconnaissons pas. Et ils sont apeurés en arrivant chez nous. Ils peuvent être soignés dans des services par la suite ou alors intubés, sans même peut-être revoir un jour leur famille.
Et ça aussi, c'est un poids avec cette prise de conscience. Hein. On va voir justement où on en est du côté des soignants en Afrique. On va prendre tout de suite un auditeur infirmier en ligne.
RFI.
La République démocratique du Congo, Bukavu, où était Priorité Santé il y a quelques semaines. Ça paraît déjà très très loin. Alexandre, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour docteur de RFI et Priorité Santé.
Ravi de vous entendre, Alexandre. Alors, vous avez voulu témoigner. Vous êtes infirmier, justement, dans cette région du Sud Kivu. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui dans cette région de l'extrême est de la RDC ? Qu'est-ce qu'on entend dire sur le coronavirus ?
Merci Caroline. En fait, on devrait juste signaler que le Covid-19, c'est une pandémie qui touche, puisque la région et le pays de notre Afrique est touché, ou la RDC est particulièrement touchée. Il y a des gens qui sont touchés au niveau de Kinshasa, pas les sources officielles. Nous devons signaler que la communauté est suffisamment déjà informée, pas suffisamment, mais il y a quand même des messages qui sont déjà lancés par des autorités, par d'autres organisations. Et nous même prestataires de soins, nous sommes en train de nous impliquer d'une manière ou d'une autre et à pouvoir mener des moyens, mettre en place certaines mesures pour nous aider à limiter la propagation de cette pandémie.
Alors, Alexandre, la ligne n'est vraiment pas très bonne. Hein. Pour bien comprendre, il y a des cas pour l'instant qui ont été recensés dans la capitale Kinshasa. C'est très, très loin de Bukavu. Hein. Malgré tout, il y a une prise de conscience. Je ne sais pas si vous pouvez parler un petit peu plus doucement au niveau du débit. C'est peut-être la ligne téléphonique qui n'est pas très bonne. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce qu'on se prépare dans un hôpital comme le vôtre ? Vous exercez à l'hôpital général de référence de Bagira, un hôpital public du Sud Kivu. Est-ce que vous vous préparez, par exemple, est-ce qu'il y a des locaux, éventuellement, pour isoler des patients ?
En fait, merci Caroline. Nous devons signaler nécessairement que c'est parmi les moyens d'élite, c'est parmi les moyens de prévention. Avoir un site d'isolement, mettre en place certaines mesures de prévention sont totalement obligatoires. mais il y a encore des mesures qui sont en train d'être renforcées, vu les degrés qui sont encore à mettre à niveau. Mais quand même, il y a certains niveaux qui sont déjà élevés par rapport aux moyens de mise en marche, aux moyens de prévention de l'épidémie en question. Donc, par rapport aux moyens qui sont disponibles, nous pouvons dire que le gouvernement est en train de se démener pour que toutes les structures soient un peu recensées, équipées, et pour que peut-être du mois prochain, on puisse avoir un cas qui survient, mm-hmm. et que les cas peut-être soient bien pris en charge, bien identifiés avant que les services qui soient concernés soient mis en alerte, et ramener le cas peut-être dans un centre qui est plus spécialisé et concerné dans la prise en charge.
Alors justement, avant la prise en charge, il y a les mesures de prévention. Alexandre, est-ce que vous avez l'impression que le message est passé sur les mesures barrières, se laver les mains, tousser, éternuer dans son coude, ce genre de gestes et essayer d'éviter les réunions publiques? On sait que dans toute la RDC, par exemple, il y a beaucoup de rencontres religieuses. Est-ce que tout ça s'est un petit peu arrêté ou la vie continue comme si de rien n'était?
Alors, vous savez que au niveau de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement au niveau de la province du Kivu, le chef de l'État, il a lancé un message et nous sommes aujourd'hui dans un état de d'urgence sanitaire. Mm-hmm. Les mesures qui ont été décrétées par les autorités habilitées, on cite le chef de l'État, sont respectées, pas totalement à 100%, parce qu'on est en train de constater qu'il y a encore des gens qui semblent ne pas comprendre que l'épidémie est là. Mais quand j'observe au niveau des structures et au niveau des autres formations sanitaires, il y a quand même des gens, des mesures qui sont prises. Vous allez rencontrer au point d'entrée, il y a des points d'eau pour lavage de mains.
Au point d'entrée de l'hôpital, mais excusez-moi Alexandre, quand on se promène dans Bukavu, là, il y a le marché central à côté de la grande route au milieu de la ville qui traverse la ville avec énormément de monde, ça grouille, il y a plein de gens. Est-ce que ça a changé? Est-ce que les gens sont toujours là pressés les uns contre les autres ou il y a moins de monde dans les rues?
On dirait pas que ça a changé à 100%. Mais quand même, on est en train d'observer les mesures qui sont lancées par les autorités. Par exemple, moi, je suis sorti de ma maison pour me rendre au service.
Oui.
J'ai constaté que les gens, quand même, sont en train d'observer les mesures, les moyens de prévention de l'épidémie.
Mais en tout cas, il faut le faire passer, hein, ce message. Il faut vraiment suivre les mesures barrières. Et tant qu'on peut rester chez soi, même si pour l'instant, il n'y a pas de cas recensés, de cas annoncés dans votre région, faire attention. On sait que les gens ont déjà connu d'autres épidémies dans cette zone de RDC. Vraiment faire attention. Le lavage des mains, c'est absolument essentiel. Merci beaucoup, Alexandre. On est désolé, la ligne n'était pas excellente. France, on parlait tout à l'heure de la prise de conscience en France. Il a fallu du temps aussi. Hein. C'est pas évident pour que les gens comprennent qu'on est en train de vivre quelque chose aussi parce que on apprend jour après jour, parce que c'est nouveau comme situation, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais connu ici, dans le pays. Si vous aviez un dernier message à faire passer, vous êtes infirmière, vous êtes dans une région où on est débordé, où on n'y arrive plus, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message?
Il faut que les gens comprennent que le confinement est primordial. Je sais que pour les Français, c'est difficile, ils ont besoin de sortir, voir du monde. Mais à choisir entre se faire soigner, être en réanimation ou peut-être ne plus jamais revoir sa famille, je pense que le confinement pourrait être respecté. Il faut juste un peu de discipline. Pensez à nous aussi les soignants. Nous avons de nombreux passages pour ces patients Covid. Et si on veut que cette progression diminue, eh ben, juste un peu de discipline et de respect. Restez chez vous.
Quand on aime la vie, on pense aux autres. France, merci infiniment de nous avoir donné de votre temps. Beaucoup de courage à toute l'équipe qui travaille avec vous au sein de cet hôpital de Mulhouse. J'y vais, on vous embrasse. Hein, j'y vais, là on a la distance, on a le droit. Je peux vous embrasser par le biais des ondes.
Oh oui.
Voilà, on vous embrasse et on vous dit merci. Priorité santé, soignez les patients atteints du Covid-19. Merci à tous. Petite respiration, c'est la voix d'Angélique Kidjo. Elle est confinée. Elle aussi, ça ne l'empêche pas de chanter de chez elle et elle nous réchauffe à distance.
So hush now, child, and don't you cry. Your folks might understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dreams are your only schemes. So keep on pushing. Whoa, wala ile baba, wow. Wala ile among Africa. Wala ile baba, wow. Wala ile among Africa.
On poursuit Priorité Santé, les soignants face à la pandémie de coronavirus, comme quoi avec une belle voix et des pouces qui claquent bien, ça marche aussi. Alors, autre région affectée par le Covid-19, c'est l'Île-de-France. L'Île-de-France capte des 1000 patients infectés par le coronavirus dans un état grave franchi dans les hôpitaux de la région parisienne. Le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, lance un appel à l'aide. L'Île-de-France, où vous exercez, professeur Olivier Bouchot, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, quelle est la situation aujourd'hui à l'hôpital Avicenne de Bobigny? On vous avait en ligne la semaine dernière, la vague n'était pas encore arrivée. Cet hôpital Avicenne de Bobigny, dont vous dirigez le service des maladies infectieuses et tropicales, est-ce qu'aujourd'hui les capacités de soins intensifs de Réa ont été renforcées? Est-ce que vous êtes au complet?
Alors, le nombre de lits de réanimation augmente. Disons qu'actuellement, il y a 24 lits qui sont armés, c'est le terme qu'on utilise maintenant. Il y a 4 lits supplémentaires qui vont être ouverts aujourd'hui et 4 autres très prochainement. Pour à peu près 80 lits de patients qui sont hospitalisés en unité aiguë. Ce qu'on appelle les lits Covid aigus. Et il est important d'essayer d'arriver à maintenir une espèce d'équilibre entre le nombre de lits de patients hospitalisés en Covid aigu et le nombre de lits de réanimation. Parce qu'ici, il y a trop de lits d'ouvert par rapport au nombre de lits de réanimation, la réanimation risque de se retrouver complètement dépassée.
Professeur Olivier Bouchot, on va raccrocher, vous rappeler tout de suite parce que la ligne est complètement hachée. On vous retrouve dans quelques instants, bien sûr, pour d'autres questions. On perçoit depuis le début de cette crise une mobilisation générale du corps médical. On vous retrouve, docteur Jérôme Marty, bonjour. Docteur Marty, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment le médecin généraliste que vous êtes exerce-t-il aujourd'hui? Comment ça se passe aujourd'hui pour un médecin libéral, une journée de travail?
Nous, on a fait un centre Covid sur le village, et d'ailleurs la même chose est dans les villages aux alentours. On a fait ça avec le conseil de l'ordre et les mairies locales qui ont fourni une salle. Les médecins de ville se succèdent dans cette salle. Nos patients nous appellent ou prennent rendez-vous, et à ce moment-là, c'est nous qui les rappelons. Et en fonction des symptômes qu'ils ont, nous les orientons soit vers le cabinet de ville avec leur médecin traitant, soit vers le centre Covid, si ce sont des symptômes qui font penser que ceux-ci peuvent être atteints du Covid-19.
Et ce centre Covid, il est installé dans quelle localité?
À Fronton, non mais il y en a un donc à Fronton là où j'exerce, et puis après vous en avez dans les villages aux alentours. On a fait la même chose avec le conseil de l'ordre 31. Donc on a les moyens de protection, on a une fiche rue qui permet de faire le signalement et de suivre les patients. On les voit en grande majorité soit en télémédecine, soit par téléphone. Et il n'y a que de forme un peu plus évoluée qu'on les fait venir à ce moment-là au centre Covid pour les examiner et les suivre.
Et par rapport à l'état sanitaire dans votre région, vous en êtes où précisément?
Alors nous, moi je suis sur le Nord Toulouse. Le Nord Toulouse, on n'est pas encore véritablement en charge importante. On voit à peu près entre 6 et 10 cas post-symptomatiques par jour. Les choses sont en train d'augmenter assez lentement. Il n'y a pas pour l'instant de véritable vague.
Professeur Bouchot, on vous retrouve, la ligne est meilleure, je l'espère. Tout à l'heure, vous disiez, nous avons ces lits qui sont armés. Ça veut dire qu'il y a non seulement le matériel, la technologie, mais aussi les personnels soignants nécessaires pour faire marcher toute cette machine. Il y a également tout ce qui concerne ce qui entoure la maladie, l'angoisse, les gestes particuliers. Est-ce que ça aussi, ça change complètement l'organisation du travail des soignants?
Alors oui, on a essayé de mettre en place des systèmes pour, par exemple, tout simplement tenir au courant les familles, puisque les familles ne peuvent pas venir voir les patients. Donc on essaie de les appeler tous les jours systématiquement pour leur donner des nouvelles. Bien évidemment, pour les
patients qui sont en fin de vie, on autorise que les familles puissent venir voir leur famille malade. Et donc on essaie de mettre en place tout un système pour ne pas se limiter à une prise en charge technique, technico-médicale, mais qu'on prenne en compte aussi l'humain. Et dans ces périodes de crise, c'est ça qui est compliqué, c'est que on est tellement dans la surchauffe et on est tellement dans la pression permanente qu'on pourrait être amené à oublier un peu toute la dimension éthique et humaine. Et ça, il faut faire très attention de ne pas abandonner cette dimension-là.
On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure dans l'émission sur les populations que vous prenez en charge tout à l'heure à Mulhouse et à Colmar. Pas vraiment de profil particulier. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Ou peut-être les comorbidités que vous constatez, c'est-à-dire que les personnes que vous prenez en charge ont d'autres problèmes de santé lourds qui ont en fait affaibli leur organisme?
Alors, écoutez, nous, on draine les patients qui sont dans le bassin de population de Bobigny, de Bondy, de Drancy, de tout la Seine-Saint-Denis. Mmh. Et on a évidemment le reflet de l'état de santé de la population.
Oui.
Et c'est assez impressionnant de voir le nombre de gens jeunes qui ont comme seule comorbidité, puisque c'est un terme que les Français connaissent bien maintenant, une obésité. Et malheureusement, en Seine-Saint-Denis, il y en a beaucoup.
Donc le surpoids, c'est vraiment un facteur aggravant pour ce Covid-19.
Le facteur est clair. L'obésité et le surpoids sont clairement des facteurs aggravants. Et avec des aggravations assez brutales.
Alors, une question très importante qui se pose partout où il y a des soignants aujourd'hui confrontés à ce coronavirus. Docteur Jérôme Marty, on vous retrouve.
Oui.
C'est bien sûr la protection physique des soignants. Est-ce que vous, dans cette région de Toulouse, vous avez les matériaux, les dispositifs nécessaires?
Alors nous, on les a dans le centre Covid-19 parce qu'on a travaillé avec le Conseil de l'Ordre et on a poussé pour les avoir, mais la situation générale n'est absolument pas identique. La situation générale, c'est que les médecins, les infirmières, en libéral, en ville, mais également en établissement, je pense aux EHPAD et aux soins de suite, manquent de tout globalement. C'est-à-dire qu'ils n'ont toujours pas les masques, ils n'ont toujours pas les tenues avec les surblouses, les charlottes, les surlunettes, les surchaussures. Ils n'ont pas les moyens de se protéger. Et on sait quel risque cela représente, en particulier dans les établissements qui s'occupent de personnes âgées, je pense aux soins de suite et aux EHPAD. Autre chose que je voudrais soulever, parce qu'on parle toujours des masques pour les soignants, mais nous, en médecine libérale, on sait très bien que lorsque l'on a un patient qui est Covid+, il est extrêmement difficile d'éviter à domicile, malgré toutes les mesures barrières, que l'affection ne s'étende pas au reste de la famille, surtout quand on vit dans des petits appartements ou dans des maisons qui sont où on peut séparer difficilement les personnes. C'est illusoire ou c'est très livresque de penser qu'on peut limiter l'affection à une seule personne. Ça, tous les médecins libéraux d'Alsace notamment nous le disent, on n'y arrive pas. Donc le seul moyen, en tout cas, pour y arriver beaucoup mieux, serait que l'on arrive à masquer les gens d'une famille où il y a l'affection.
Et il faut le souligner nos auditeurs l'ont souvent demandé, ces masques, il faut les changer plusieurs fois au cours d'une même journée.
Les changer évidemment plusieurs fois au cours d'une journée, environ toutes les 3-4 heures, mais il faut surtout qu'ils soient disponibles.
Bien sûr,
aujourd'hui,
bien
on
sûr.
Ne peut absolument pas marquer un masque, il n'y en a pas.
Mmh.
Donc ça, c'est un scandale dans le scandale et je commence à en avoir assez. Ça fait maintenant 2 mois qu'on alerte pour avoir les masques. On voit des familles entières s'infecter, faute de masques. Mais dans quel pays on est?
Cette colère, on gère la pénurie d'après vous aujourd'hui, véritablement.
On gère la pénurie. Attendez, déjà on gère le mensonge.
Mmh.
Parce que depuis 2 mois, on nous promène. D'accord? On sait très bien qu'il n'y a rien, on sait très bien que les masques dont ils disposent, c'est les masques qui ont été réquisitionnés en pharmacie, qu'ils ont recentralisé à l'État, et maintenant qu'ils redistribuent. On est emmerdé avec les douanes actuellement. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se sont débrouillés, qui font des circuits parallèles, notamment du privé, ont levé des fonds, ont fait venir des masques, et les masques n'entrent pas sur le territoire parce qu'ils sont bloqués par les douanes. Ça suffit. Cette espèce de théâtralisation du mensonge commence à suffire.
Vous êtes révolté par rapport au discours officiel qui dit il n'y a pas besoin de masques, par exemple, pour telle ou telle catégorie de la population. Et en fait, finalement, ce que vous pensez, c'est que au moment où les masques arriveront, finalement, il y aura un discours officiel qui va changer complètement. Finalement, on en aura besoin.
Ce que je dis, c'est que les masques sont nécessaires dans certains moments de la vie.
Mmh.
Un, dans les maisons où il y a une personne atteinte. Deux, dans les activités quotidiennes. Et vous savez que M. Bruno Le Maire a toujours appelé les gens à faire tourner les entreprises pour soutenir l'économie du pays. Or, dans certaines grandes villes, les gens prennent les transports en commun. Et dans les transports en commun, ils ne peuvent pas respecter les 1 mètre de distanciation sociale. Dans ces situations-là, il faut impérativement que les gens aient des masques. Parce que sinon, ils s'infectent les uns les autres. Ils prennent de la charge virale et on les retrouve en réa.
Alors, on l'entendait tout à l'heure avec France, hein, infirmière à Mulhouse, le désarroi des soignants. Là aussi, on peut accompagner dans cette situation de crise importante. C'est vraiment important sur le plan psychologique de faire un geste. Il y a des dispositifs qui se mettent en place. Par exemple, il y a un numéro vert pour les soignants en détresse. C'est le 0805 23 23 36. On indiquera sur la page Facebook de l'émission l'adresse du site de l'Association des soins aux professionnels de santé. Docteur Jérôme Marty, cette question aussi de la souffrance psychique, c'est une réalité aujourd'hui.
Bien sûr que c'est une réalité. C'est une réalité à la fois pour les patients, et nous on a un rôle qui est un rôle de réassurance, d'explication, et vous savez qu'il y a un taux de confiance qui est très important vis-à-vis des médecins, vis-à-vis des infirmières, vis-à-vis de tout ce qui est tissu sanitaire, qu'il soit hospitalier d'ailleurs ou de ville. Donc on a un rôle à la fois de soins et un rôle d'explication et de réassurance, en faisant un peu tomber la pression en expliquant ce qu'est réellement cette infection. Et puis ensuite, vous avez aujourd'hui une vraie colère, une colère rentrée, colère froide, et un sentiment de désespoir de la part également des soignants qui voient qu'un certain nombre de choses n'avancent pas, en particulier sur les moyens de protection.
Et face à tout ça, il faut donner des réponses. Merci beaucoup, docteur Jérôme Marty. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. Question que je vous adresse à vous aussi, professeur Olivier Bouchaud, sur le ressenti des soignants aujourd'hui. En début d'émission, j'évoquais le décès de 5 de vos confrères qui avaient contracté le Covid-19. Est-ce que c'est quelque chose dont on parle aujourd'hui à l'hôpital ?
Alors il est clair que le personnel médical, et peut-être surtout paramédical, parce que le personnel médical a des moyens de relativiser un petit peu les choses, le personnel donc paramédical est quand même très pris par l'angoisse, à la fois pour eux-mêmes, mais aussi beaucoup pour leur entourage. Et ça, il faut aussi qu'on soit très inventif pour essayer de juguler le plus possible cette angoisse. Et on en parlait tout à l'heure avec mon équipe, également pour les préparer au fait que, même si ça n'est pas vraiment le cas actuellement, mais dans les jours qui viennent, il n'est pas impossible qu'on soit dans une certaine limitation des soins aigus, notamment en réanimation, faute de place. Il va falloir que le personnel se prépare à cette façon d'envisager la pratique médicale, alors qu'on n'y est pas du tout préparé et on n'y est pas habitué.
Ce que vous êtes en train de nous dire, professeur Bouchaud, vous nous le dites avec beaucoup de pudeur, ça veut dire qu'à un moment donné, les soignants vont devoir choisir, vont devoir trier, vont devoir prioriser. On touche au cœur même de votre métier, de votre cœur, on va dire, de votre âme de soignant, c'est l'éthique, c'est la déontologie. On a vu en Italie des soignants, justement, qui ont dû décider qui ils prenaient en réa parce qu'il n'y avait pas assez de respirateurs en raison de cette saturation des lits de soins intensifs. Déjà, les gens y réfléchissent chez vous, à l'hôpital Avicenne de Bobigny?
Alors, on veut essayer d'anticiper le plus possible cette phase. Actuellement, que les choses soient claires, en tout cas pour nous, on n'y est pas.
On n'y est pas, c'est important de le dire.
Oui, ça faut que les choses soient claires. Mais je pense qu'il faut qu'on s'y prépare tous au cas où dans les jours qui viennent, ou dans les temps proches qui viennent, on serait amené à entrer dans cette phase-là.
Il va falloir protéger les soignants à plusieurs niveaux. On a bien compris le risque infectieux, l'impact psychologique de toutes ces décisions à prendre. Et puis aussi peut-être, et là aussi c'est essentiel pour des structures hospitalières comme la vôtre, professeur Olivier Bouchaud, prévenir toute épidémie au cœur de l'hôpital, au cœur des structures de soins. Est-ce que ça aussi, ça a bouleversé certains protocoles d'assainissement, d'hygiène, de désinfection? Est-ce qu'on travaille encore de la même manière sur ce plan-là? On a beaucoup parlé par le passé des infections nosocomiales. D'énormes efforts ont été faits sur ce plan pour limiter les risques de transmission d'agents infectieux. Est-ce que ça change la donne ?
Alors oui, parce que je pense que les soignants qui étaient parfois peut-être un petit peu distraits par rapport à ces précautions, dans le jour où ils sont concernés directement et qu'ils savent que ça peut concerner leurs collègues et de façon plus large leurs familles sont certainement beaucoup plus attentifs à respecter ces précautions. Et donc, dans les unités Covid aiguës, c'est quand même très respecté. Alors, moi, dans mon service, c'est un peu particulier parce que les équipes sont formées à ça depuis très longtemps. Mais je pense que dans les autres équipes qui vont petit à petit être amenées à s'occuper de patients infectés par le coronavirus, les choses vont également se mettre en place dans ce sens-là.
Avant de vous libérer, professeur Bouchaud, juste, est-ce que vous voulez bien vous livrer un petit exercice avec nous? C'est la réponse aux questions des auditeurs, parce qu'il y a pas mal de fausses croyances qui circulent et on essaye au jour le jour d'essayer de remettre un petit peu les choses à plat. Il y a patients, par exemple, en République démocratique du Congo, qui demandent pourquoi les personnes âgées sont plus vulnérables que les enfants.
Alors, c'est une très bonne question. Les personnes âgées sont plus vulnérables parce que leur corps a moins de capacité de résistance aux infections et aux maladies en général. Alors, par contre, pour les enfants, pour le moment, ça reste encore un petit peu mystérieux. Pourquoi est-ce que les enfants, et notamment les enfants de moins de 10 ans, et même on va dire jusque moins de 18 ans, font très peu la maladie clinique? Il n'y a que des hypothèses, on n'a pas de preuves. Une des hypothèses serait que les enfants, notamment dans leur jeune âge, ont fait beaucoup d'infections nasales avec des coronavirus banals et que peut-être ça leur donne une certaine immunité. Mm-hmm. Chez les très petits, peut-être que leur poumon est suffisamment immature pour que le virus ne puisse pas faire ses lésions agressif sur le poumon, mais pour le moment, on ne sait pas exactement.
Il y a des questions sur le lien, c'est des auditeurs en RDC hein, qui s'interrogent sur le lien entre Ebola et ce virus Covid-19. Ils demandent si les modes de prévention sont les mêmes, par exemple. C'est Michel Aboutembo.
Alors non, pas du tout. Mm-hmm. Là, il faut que les choses soient très claires. Le coronavirus se transmet comme la grippe, c'est-à-dire par les gouttelettes de salive. Le seul petit point commun, c'est que ces gouttelettes de salive peuvent se déposer sur des surfaces, sur une table, sur un lavabo, sur n'importe quelle surface, et que par contact, avec la main notamment, on peut s'infecter sa main, et ensuite quand on porte sa main à sa bouche, mm-hmm. on peut être infecté par ce biais-là.
Mais en dehors de ça, la contamination n'est pas la même. Merci beaucoup, professeur Bouchaud, de nous avoir donné votre temps. À très bientôt dans Priorité Santé. On a réussi à vous joindre, professeur Emmanuel Hirsch. Bonjour.
Bonjour.
On évoquait tout à l'heure avec le professeur Bouchaud ce moment qui n'est pas encore venu hein, en Île-de-France, de faire peut-être demain le tri, de devoir faire des choix entre les patients qui se présentent. Ces questions éthiques aujourd'hui, elles sont vraiment sur le devant face à une pandémie inédite, une situation que n'ont jamais connue les services sanitaires en France.
Tout à fait. L'important, c'est de faire des choix selon des règles démocratiques, selon des principes justes. Et soyez rassurés aujourd'hui, dans notre pays, les équipes de réanimation savent exercer des décisions, arbitrer des décisions, même dans un contexte redoutable. Parce que entre prendre une décision en prenant le temps, parce qu'il n'y a pas une pression comme aujourd'hui, et parce que les pratiques ne sont pas saturées, et puis se retrouver comme aujourd'hui à prendre des décisions nombreuses, y compris avant la réanimation, c'est-à-dire de ne pas réanimer des personnes qui auraient pu bénéficier de réanimation, on est dans un contexte différent. C'est pour ça qu'il y a des règles, ce qu'on appelle des critères précis, qui évaluent la capacité de la personne à bénéficier d'une réanimation dans un contexte où on manque aujourd'hui progressivement de moyens. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui à Paris, par exemple, mais on a vu, par exemple, en Alsace, hein, pour les gens qui sont en France, à quel point certains services avaient été saturés. Donc, l'important, c'est aussi comment communiquer avec la famille et comment rendre acceptables des décisions qui, dans un contexte normal, n'auraient pas été à prendre. Donc, vous avez toutes ces réflexions, mais elles se font dans la transparence, elles se font dans la proportionnalité. Et je pense que ce qui est important, c'est de faire confiance en la capacité de nos professionnels, y compris du SAMU, à faire les meilleurs choix. Et tout à l'heure, j'entendais dans une question qu'un auditeur posait sur les personnes âgées, il ne faudrait pas considérer que parce que vous avez 85 ans, pour prendre comme ça un seuil, mmh. vous n'êtes pas éligible à la réanimation. Et vous avez toutes sortes de questions fondamentales, et je termine sur ce point, qui se posent sur les personnes les plus vulnérables.
C'est-à-dire que plus une personne est vulnérable, plus on a des obligations. Mais dans une démocratie, il faut qu'on soit âgé de plus. Il faut qu'on soit juste dans la répartition de moyens limités. J'ai du mal à parler parce que comme j'ai un retour de ma parole, c'est peut-être pas très clair.
J'imagine que c'est plutôt compliqué dans ce cas-là, effectivement, de réfléchir et de s'exprimer. On a eu la question tout à l'heure du matériel avec, on va dire, le coup de colère du docteur Marty, puisqu'il y a encore des soignants et notamment des structures de soins pour les personnes âgées qui n'ont pas tout le matériel disponible, avec ces fameux masques, hein, on en entend tellement parler en France. Soigner, c'est s'exposer. On peut poser cette question, c'est aussi une question éthique, avec ce vocabulaire militaire qui est parfois entendu dans la bouche de certains de nos responsables politiques. On parle de guerre, mais il n'est pas question de s'affranchir de la déontologie. Professeur Emmanuel Hirsch, Hippocrate, c'est pas Napoléon.
Je suis d'accord. D'abord, soyez convaincus d'une chose, c'est que quand une personne elle a une maladie grave, un cancer, elle lutte comme un combattant. C'est-à-dire le concept de guerre et de combat, c'est un concept qui est omniprésent dans la médecine, dans les pratiques habituelles. On lutte contre la mort, on lutte contre la souffrance. Alors, il y a des règles, effectivement, de déontologie, mais vous évoquez la question des masques, donc de la protection des personnes qui sont, pour reprendre un petit peu l'image de la guerre, qui sont sur le front. Il est effectivement évident qu'on n'a peut-être pas anticipé, et est-ce qu'on avait possibilité de le faire, l'amplitude que prendrait cette pandémie. Mais progressivement, on voit que des réponses sont apportées. Mmh. J'observe, pour être en contact direct avec les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, que les professionnels restent tout à fait impliqués, que des mesures un petit peu, j'allais dire, empiriques ont été mises en place. Correctivement, les masques, les protections, les lunettes, les casaques arrivent. Mais ce qui est assez extraordinaire, il faut quand même aussi le dire, on pourra toujours faire l'inventaire de tout ce qui manque, de tout ce qui fait défaut et ce qu'on aurait pu faire. Progressivement, c'est compensé, mais ce que je vois, c'est quand même toute la créativité, toute la mobilisation de solidarité, toute l'humanité. Et quand vous parlez de déontologie, le devoir de ne pas abandonner quelqu'un, y compris en prenant les risques, et on a eu à déplorer déjà 5 médecins qui sont morts en France, et rien qu'à Paris, vous avez à peu près 500 soignants qui sont contaminés. Donc la déontologie, c'est aussi une capacité d'engagement. Et aujourd'hui, les professionnels de santé, mais pas que, vous avez dans la société civile tous ceux qui s'engagent pour permettre la continuité de l'État et de la vie publique.
Ils en
font
preuve.
Ces gens-là sont des modèles d'engagement et c'est ça la déontologie élite.
Merci beaucoup, hein, comprendre ce qui se passait, prendre du recul avec vous, professeur Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale. Et ce dernier message, c'est commis à Lomé au Togo qui dit respect, admiration, soutien à tous les personnels soignants qui sont en première ligne dans cette crise mondiale. Message d'un auditeur du Togo pour dire encore merci. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. À ces Toussa Maké, Ophélie Lassène, elles sont bien là, Didier Bleu et Alice Ménot aussi. Demain dans Priorité Santé, est-ce que j'ai dit Ménot au lieu de Ménard? Je pense que c'est ça, c'est Ménard. Nous parlerons des personnes vulnérables en situation de confinement, on en parlait à l'instant, face à cette pandémie. Prendre en charge les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, protéger, respecter. À demain, d'ici là, portez-vous bien, lavez-vous les mains. Et restez chez vous.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a désormais sa première banque, Sounou Banque Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Banque vous accompagne. Sounou Banque, avec vous, à chaque étape.
Du lundi au vendredi,